Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons donc ce 7 juin pour une 14e et dernière leçon de ce parcours sur Saint-Paul. Nous aurons eu le temps de parcourir, après une introduction générale, les premières lettres, 1 et 2 Thessaloniciens, et les grandes épîtres, comme on les appelle, à savoir la première aux Corinthiens, Philippiens, Galates, la deuxième aux Corinthiens et Romains, toutes écrites entre 53 et 58 au cours du troisième voyage apostolique de Paul. Nous n'aurons pas eu le temps, en 14 heures, de parcourir les lettres dites de captivité, à savoir Éphésiens, Colossiens et le Pilien Philémon, et les lettres dites pastorales, à savoir celles adressées nommément à des personnes, Timothée, de lettres à Timothée, et Tite. Lettres de captivité qu'il ne faut pas nécessairement assigner, Éphésiens, Colossiens, et les pastorales aussi, à la période romaine, au sens où Paul, on l'a vu, a déjà connu des temps de captivité à Éphèse, mais il en connaîtra à l'issue de ce troisième voyage, dans la foulée, à Césarée, en stand-by pour son quatrième voyage qui serait vers Rome. Nous allons, dans cette leçon, terminer une dizaine de minutes la lettre aux Romains, enfin ce que on pouvait en dire dans ce cadre limité, et puis nous ferons un peu une synthèse d'ensemble de ce que nous avons pu entrevoir. Vous vous souvenez que la fois passée, nous avions pu lire attentivement l'adresse salutation de la lettre aux Romains, où il y a un développement dans lequel on a pu noter l'expression « Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi dans toutes les nations ». C'était là une perspective importante de la lettre aux Romains. Paul, apôtre des nations, et pour les conduire à la foi, qualifiée ici d'obéissance de la foi. Alors dans le chapitre 5, nous avions approché le passage important où Paul, après avoir au chapitre 4 présenté la valeur exemplative de la foi d'Abraham, Paul nous fait valoir le règne de vie dans lequel nous introduit la foi, et il le fait en contraste avec le règne de mort introduit par la faute d'Adam et que contrecarre et que vainc le règne de vie bien plus en Christ. On avait pu dans la première partie du chapitre, les versets 1 à 11, déjà noter le contraste entre d'une part notre condition avant la rédemption, d'impie, d'ennemi de Dieu, de pécheur, voué à la mort, et d'autre part, une fois la justification advenue, dit Paul, et le salut entrevu, eh bien nous sommes désormais en paix, justifiés, réconciliés, sauvés par sa vie. Et ce contraste final entre la mort, dont le péché nous affecte, et la vie qui nous vient en Christ, était alors développé dans les versets suivants, les versets 12 à 21 du chapitre. Vous vous souvenez, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, etc. Le texte en était sur votre page 63. Et là aussi, on avait pu faire valoir la dynamique, la progressivité du texte qui faisait valoir, d'une part, ce règne de la mort qui a commencé déjà d'Adam à Moïse et puis sous la loi, et par contre le règne de la vie qui nous vient par le Christ, par la grâce à la condamnation répondait la justification de vie, et à la désobéissance d'Adam répondait l'obéissance du Christ. C'est important vu que je viens de rappeler dans l'adresse cette expression Paul apôtre pour conduire à l'obéissance de la foi les nations. Le premier qui s'est fait obéissant, c'est le Christ. Et Abraham est qualifié, lui aussi, ailleurs, d'obéissant à la volonté de Dieu dans sa foi. Après ce parcours rapide de ces 21 versets du chapitre 5, j'avais pris à la page 64 quelques lignes de force des chapitres 1 à 8 tels que Hostie peut les dégager, c'était le haut de la page. Et puis, il y a aussi dans le bas de la page un beau petit résumé qu'en son temps, le père Camille Dumont, qui a enseigné ici, et dans la foulée aussi du père Radermakers, qui avait repris son petit topo, concernant le rapport à Adam et au Christ. Il y a comme une dialectique entre le péché et la grâce, donc je suis à la page 64, c'est donc partie de la page, qui utilise la typologie qui va de Adam au Christ et qui montre que, primo, tous les hommes sont concernés par la puissance du péché, amartia dans le grec. Donc, sous la catégorie de juif païen, il y a plus profondément la catégorie de tout homme inscrit dans une histoire non sainte, dans une race de pécheurs. Et cette catégorie est signifiée par le type Adam. Et chaque fois, vous avez des références à des usages qu'on fait de ces passages scripturaires, dans le sens ici résumé, certains consignes d'orange, de 30, etc. Alors, si tout homme est concerné par le péché d'Adam, réciproquement, Jésus-Christ concerne tous les hommes. Et dans l'expérience spirituelle de Paul, on sent bien que c'est sa rencontre du Christ qui lui a fait, par reflux, considérer la grandeur de ce salut et à quel point tous les hommes en avaient besoin, et dès lors remonter à la figure d'Adam. Deuxièmement, tout homme est concerné dès avant son acte libre. Souvenez-vous de l'expression de Paul, même sur ceux qui n'avaient pas péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. Ils sont quand même sous voie du péché. Il y a comme une objectivité de la perdition, mais aussi du salut. Mon existence est toujours située. Lorsqu'un enfant vient au monde, il entre dans un monde pécheur. Sauvé aussi, mais pécheur. Il y a des existentiaux, des conditionnements historiques, qui mettent ma liberté en situation. Mais réciproquement, par Jésus-Christ, tout homme est situé dans un existentiel de grâce. Et c'est la grâce du baptême que de plonger l'enfant dans cet existentiel de grâce qui lui vient par le Christ. L'homme est concerné non seulement en sa périphérie, mais en son existence. Il ne s'agit pas seulement des conditionnements socio-psychologiques, mais comme une radicalité de notre destinée d'homme. Le langage du péché originel, on sent bien qu'il désigne quelque chose qui nous affecte profondément dans notre être. Réciproquement, appartenir au Christ par le baptême renverse totalement la servitude du péché et enracine dans la nouveauté de l'existence comme par une renaissance. Tous ces mots ont la résonance dans le texte paulinien lui-même. Enfin, l'homme est concerné non seulement dans son existence profonde, avant même tout acte libre, mais il est concerné aussi dans l'acte eschatologique de la présence de Jésus à l'histoire. Pour dire que le sens ultime de sa destinée va trouver son accomplissement à la lumière de la venue du Christ. Ainsi, toute décision d'homme est-elle une prise de position pour ou contre l'événement Jésus-Christ. Je ne choisis pas mes valeurs, je me décide toujours face à une personne déjà présente. Et j'adhère aux valeurs que le Christ me présente et déploie en sa personne et son message. Je me décide toujours face à une personne déjà présente, même si elle ne m'est pas à tout moment explicitement présente à la conscience. Alors ce quatrième point montre qu'il n'en va pas de la grâce comme du péché. Vous vous souvenez, il y avait de même, mais aussi il n'en va pas du péché comme de la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce, elle, a surabondé. C'est la grâce qui donne le sens de l'histoire, et non pas le péché qui est néant, une négation de ce sens. C'est la grâce qui est toujours l'unique intention de Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, l'homme type n'est pas Adam d'abord, mais le Christ. Si Adam n'avait pas péché, il serait Jésus-Christ, d'une formule un peu audacieuse. Les deux figures ne se contrebalancent pas. Le Christ est toujours surimposé, comme image réelle, par-dessus l'image évanescente qui s'en va, mais pas simplement imaginaire, d'Adam. Le Christ est vraiment, en sa résurrection, à l'œuvre contre les forces du mal, mais progressivement les vains. Et fait que cet héritage mortifère d'Adam, de plus en plus est vaincu dans la puissance de sa résurrection. Le Christ est l'unique, mais pour la multitude de ses frères et pour leur vie. Voilà, résumé un peu contracte, mais qui marque la force, je dirais, dogmatique virtuellement présente dans ces versets de Paul. Alors les pages 65 et 66, et j'en termine par là pour Romains, je ne vais pas les parcourir. C'est comme pour d'autres lettres, je vous ai fait un petit résumé, je dirais une sorte de concordance de quelques thèmes et vocables importants dans la lettre de Paul aux Romains. Central, je cite ici simplement les sous-titres des paragraphes que j'ai pu ainsi élaborer. Central, le mystère pascal, la mort et la résurrection dans Romains, avec notamment le passage très fort et trinitaire de Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a relevé Jésus d'entre les morts, l'esprit du Père, habite en vous, celui qui a relevé d'entre les morts Jésus-Christ fera vivre aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, on voit que la fête de la Sainte Trinité n'est pas simplement contempler Dieu Trinité tel qu'en lui-même, mais aussi pour nous, qui signifie ici par le « habite en vous ». Son esprit vous ressuscitera. À côté de ce thème essentiel, à la page 66, j'ai repris les expressions qui prennent acte de ce que tous les hommes ont péché, mais également tous sont appelés au salut. Avec l'expression très forte de 11:32, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire miséricorde à tous. C'est-à-dire la justice de Dieu manifeste à tout homme qu'il est pécheur, et dans cette prise de conscience, il veut en même temps ne pas le laisser désespérer, mais lui faire miséricorde et l'en sortir de cette désobéissance, et on l'a vu par l'obéissance même du Christ. Enfin, l'homme est appelé à glorifier Dieu et à partager sa gloire en Christ. Et on retrouve cette mention de la gloire du Christ et à laquelle nous sommes invités à participer eh bien, dans plusieurs passages, y compris bien sûr dans la doxologie finale, par exemple au chapitre 15, « Afin que d'un même cœur, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » C'est en Christ que nous sommes acheminés à la gloire à laquelle nous sommes promis par sa puissance recréatrice. Voilà pour cet aperçu de Rome. Je prends maintenant, si vous voulez, les pages. Je vous en ai mis le texte intégral, parce que c'est un peu dense, de la conclusion générale que je vous propose, au moins à notre parcours. Je l'ai intitulé « Des mots qui parlent aujourd'hui ». En tête, j'ai cité Didier Rimaud, dans l'hymne bien connu, Dieu, au-delà de tout créé, nous ne pouvions que t'appeler l'inconnaissable, mais béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent. Les mots de Paul, aujourd'hui encore, nous parlent et nous façonnent. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, dit une parole psalmique citée dans la deuxième aux Corinthiens. Et de fait, Paul a d'abord cru, et puis il a parlé, puis il a écrit. Tout comme le cœur de la bonne nouvelle s'est offert à la foi des premiers témoins qui l'ont reçu, ils ont cru, avant d'être proclamés oralement par eux, puis enfin mis par écrit par les évangélistes. Alors les écrits de l'apôtre, les lettres de Paul, furent des actes de communication épistolaire, genre de la lettre, dans une relation vive avec ses destinataires. Vous vous souvenez qu'il s'écrit même dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 3, « Vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère. » Lettre écrite non pas avec l'encre, mais avec vos vies. Ces lettres de Paul redeviennent pour nous une parole vive, notamment dans la liturgie. Dès lors qu'elles sont proclamées oralement, et qu'on ne se contente pas de les lire dans son missel, qu'on les entend, elles redeviennent une parole dans notre actualité, que ce soit dans l'office divin ou la liturgie de la parole de nos Eucharisties. Leurs mots résonnent comme parole de Dieu et pas seulement de Paul, nous le savons. Alors de qui est cette parole et d'où vient-elle? Donc vous avez le texte là sur lequel vous êtes, à la page 67, vous avez le plan de, que je suis à la toute dernière page, 76. Donc de qui est cette parole? D'où vient-elle? Inséparablement, elle est de Paul et de Dieu. Cette parole est bien sûr de Paul, qui est inscrit dans le peuple de Dieu, et qui cite à ce titre l'Ancien Testament pour bien signifier, on l'a vu dans une exégèse pénétrante, l'accomplissement de cet Ancien Testament dans la nouveauté du Christ. Cette parole est de Paul, inscrit aussi dans l'Église du Christ, inscrit dans son peuple Israël, dont il connaît les Écritures, mais aussi inscrit dans l'Église du Christ, comme l'atteste dans ses propos l'intégration de formules hymniques et liturgiques, sacramentelles, doxologiques, dont se nourrissait sans doute déjà l'Église naissante. À certaines lettres, il y a des passages, on peut se dire, tiens, ça devait déjà être des passages élaborés et utilisés oralement dans la liturgie, que Paul a intégré ça et là dans ses lettres. Cette parole est bien sûr de Paul, dans son peuple, dans l'Église naissante, mais elle est aussi parole de Dieu, parlant par son esprit au cœur et à l'intelligence de Paul, qu'il s'est choisi, et dont les écrits, reconnus inspirés, autant qu'inspirants, furent dès lors recueillis dans le canon des Écritures. Paul, au moment où il écrit, il n'imagine pas que c'est dans le canon des Écritures inspirées vont entrer ses propres écrits. L'esprit en personne se joint à notre esprit, dit l'apôtre. Et cette réalité, il l'a éprouvée aussi dans le travail d'enfantement de ces mots de feu. C'est Paul, avec toute la vivacité de son esprit et de son intelligence humaine, mais visité par l'Esprit de Dieu. Donc cette parole est de Paul et de Dieu. De qui nous parlent ces lettres? De Dieu d'abord. Du Dieu des Pères, reconnu Dieu de Jésus-Christ, et nous envoyant son esprit de filiation. Aux Galates stupides, d'où avez-vous cru? Eh bien, d'avoir reçu l'esprit. Vous avez reçu l'esprit d'avoir cru, l'esprit de filiation. Paul, le théologien mystique, nous ouvre à la réalité trinitaire, on vient de le voir, à partir de ce qu'il expérimente de l'agir divin en faveur des croyants. C'est là qu'il nous parle de Dieu, parce que Dieu s'est révélé et que Paul l'a expérimenté. Dès lors, inséparablement, Paul nous parle tout autant de lui-même et des communautés d'alors, bénéficiaires de l'agir de Dieu, que de Dieu. Mais on peut quand même se poser la question, pourquoi Paul parle-t-il tant de lui-même dans sa lettre? Le genre épistolaire n'est pas le genre évangile. Dans une lettre, la situation du rédacteur de la lettre importe, au point de faire parfois l'objet principal de cette lettre, ou du moins de requérir d'importants développements. On se souvient comment la deuxième aux Corinthiens insiste sur la situation de l'apôtre pour parler du ministère apostolique. Paul, en tant que disciple postérieur aux douze, reconnaît humblement son adhésion au christianisme comme exemplaire pour la majorité des croyants dont nous sommes. Car son cas à lui, Paul, son cas atteste éminemment la rencontre de Jésus-Christ, Fils de Dieu, par des gens qui n'ont pas connu le Seigneur de la même manière que les douze ou d'autres de ses contemporains. Paul est déjà un petit peu dans notre situation. Il n'a pas été présent du vivant terrestre de Jésus. Il l'a rencontré ressuscité. Et en plus, ça s'est conforté par le témoignage des autres, mais il a eu cette faveur, comme il dit, d'une révélation de Jésus-Christ. Si Paul parle de lui, de la grâce expérimentée, c'est pour nous, que nous mesurions combien nous en sommes bénéficiaires aussi. Alors comment ces lettres peuvent-elles encore nous concerner? En quoi ce qui nous est dit des communautés d'alors et ce qu'il leur a dit peut-il encore nous concerner? Révélation et rédemption sont manifestation et agir de Dieu dans l'histoire. Dieu fait connaître qui il est par ses prophètes, par ses paroles, mais aussi par la manière dont il intervient. les interventions de Dieu dans l'humanité sont méditées, interprétées à un moment d'histoire par les auteurs inspirés. Nulle parole n'est donnée hors de l'espace et du temps. La parole de Paul est donc située. Pour l'éclairer, il convenait de recourir aux apports de la méthode historico-critique, entre autres. Des éclairages sur le contexte historique d'abord, des éclairages sur le sens de tel vocable dans le texte original, etc. Cependant, les situations et les problématiques alors rencontrées par Paul ne sont pas sans analogie avec notre expérience chrétienne d'aujourd'hui. Si ces mots peuvent nous concerner, c'est parce que sa parole est certes située et que nous nous sommes situés en partie différemment, mais ils peuvent encore nous toucher. Pour que cela nous rejoigne, il nous faut découvrir sous quel angle il y a analogie entre ce que Paul évoque et notre situation. Par exemple, pour les questions d'observance, que veut dire aujourd'hui ne pas scandaliser le faible ? Mais à propos des viandes sacrifiées aux idoles, ça voulait dire ne pas offrir des sacrifices aux idoles, même si on sait qu'elles ne sont rien, pour ne pas scandaliser le frère, qui risque d'être induit en erreur, etc. Cette problématique n'est plus la nôtre. Mais il y a d'autres situations où nous savons ce que veut dire ne pas scandaliser le faible. Il y a des gens qui sont encore un peu en marge de l'Église, timides, et il s'agit de respecter leur cheminement, le temps qu'il prend, etc. Alors, vous pouvez trouver beaucoup d'exemples, sans parler des scandales comme tels dans l'Église. Pour les questions d'adhésion à la vérité engagée par la foi au Christ, comment discerner les erreurs d'aujourd'hui ? Certaines sont apparentées aux erreurs au niveau théologique profond rencontrées par Paul, mais d'autres surgissent en des termes nouveaux, questions nouvelles de bioptique, etc. Et cependant, nous avons des critères pour les aborder. Par rapport à ce qui concerne notre juste rapport à la loi, comment le chrétien d'aujourd'hui peut-il recevoir les commandements de Dieu tels que vécus et éclairés dans le Christ ? On a compris devant nous la loi de Moïse et ses multiples préceptes, mais le cœur de la loi demeure, et comment le comprendre dans les situations qui sont les nôtres ? Alors on ne peut pas se livrer à des transpositions simplistes ou naïves. Il y a des écarts évidents entre les contextes et les débats d'alors et ceux d'aujourd'hui. En même temps, comme toute l'Écriture, la parole inspirée que livre Paul transcende les circonstances qui l'ont vu naître. Qu'est-ce qui, par-delà les écarts des temps historiques, nous donne de rejoindre la vérité visée par l'apôtre ? Qu'est-ce qui peut même mettre en lumière le surcroît de vérité enclose en ces paroles au-delà de la conscience que Paul pouvait en avoir. La force des mots de Paul continue à grandir en intelligibilité au sein du peuple chrétien. Eh bien, c'est l'Esprit qui nous donne ainsi de rejoindre la vérité, parce que c'est le même Esprit qui a inspiré Paul et qui doit nous visiter et nous donner de rejoindre en vérité ce qu'il a voulu dire. Il s'agit d'écouter ce qu'aujourd'hui, à travers les mots de Paul, l'Esprit dit aux églises, pour prendre l'expression de l'Apocalypse. Voilà pour ce qu'il en est de réfléchir un peu comment ces lettres peuvent-elles encore nous concerner, de manière générale. À qui s'adressent les mots de Paul ? Bien sûr, à ses destinataires immédiats d'abord. Telle personne, telle communauté, les Philippiens, les Corinthiens, etc., d'alors. Mais aussi, dans la visée du bon dépôt à transmettre, les mots de Paul s'adressent, en plus s'adresser à des croyants ultérieurs, des générations suivantes. Ceux qui, au fil de 20 siècles, le christianisme ont entendu proclamer ces lettres, ou les ont lues, et y ont reconnu ecclésialement la marque de Dieu. Et cela jusqu'à nous les transmettre, à nous. Donc, ces mots de Paul s'adressent à ses destinataires immédiats, aux croyants ultérieurs, à nous, et par notre docilité à Dieu, aux futurs croyants, dans la visée de transmission du bon dépôt. Nous sommes dépositaires d'un trésor, et notre génération est chargée aussi pour les générations présentes, avec la grâce de l'Esprit de Dieu, de transmettre le bon dépôt. Et ces lettres, ces mots de Paul s'adressent aussi à Dieu, à certains moments. dans les nombreuses prières d'action de grâce, de louange, bénédiction, de demande, Paul nous donne des mots pour nous adresser à Dieu, pour parler à Dieu, pour parler non seulement de Dieu, mais à Dieu. Alors j'avais mis en tête la référence de 2 Timothée 2:2, c'est facile à retenir. Ce que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de le transmettre à d'autres. Il y a une chaîne de transmission de 4 maillons qui s'amorce là. Ce que tu as reçu de moi, tu l'as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes fidèles qui seront à leur tour capables de le transmettre à d'autres, et on comprend, etc. Donc c'est une référence importante pour la transmission du dépôt apostolique, fait que les mots de Paul nous rejoignent encore aujourd'hui. Voilà pour une vaste introduction. Je prends un premier grand point, rendre grâce à Dieu pour la place de Paul dans le plan de Dieu et la conscience que l'apôtre en a reçue. Paul occupe une place singulière, ça vous l'aurez remarqué. Certes, du point de vue de l'Écriture, le Nouveau Testament comporte aussi des lettres de Pierre, Jacques, Jean, etc. Cependant, on note l'importance particulière du corpus paulinien, alors même que Paul écrit avant la rédaction finale des évangiles, vous vous en souvenez. Du point de vue de l'activité missionnaire aussi, Paul a une place importante. Pierre, bien sûr aussi, et tant d'autres ont contribué à l'évangélisation des païens, si je veux dire les actes. Reste que Paul surprend par la force de sa personnalité et son influence. Tel point qu'on a pu dire, serait-il le fondateur du christianisme? On peut répondre toujours mais non, parce que Paul lui-même se présente simplement comme animé par le Christ lui-même. Tel Christ qui vit en moi, dit-il. Son déploiement apostolique et la force de sa pensée sont impressionnants et ont pu même apparaître quelque peu écrasants pour ses contemporains, voire encore aujourd'hui. Certains ont eu peur d'être un peu piégés par Paul, par ses élaborations théologiques ou ses audaces missionnaires. Alors c'est souvent comme ça vis-à-vis de fortes personnalités. Elles séduisent, mais elles font un peu peur aussi. Alors ça ne veut pas dire que Paul a des défauts, qu'il ne faut pas les discerner, il y a des limites, mais quand même. Il ne faut pas trop se méfier de Paul. Paul, c'est un misogyne et puis l'affaire est classée. Pas si simple que ça. Hein? Donc, il occupe une place singulière à respecter. Quelle est cette place singulière? Quelle est la place qu'il se vit assignée par Dieu? Parce que ce n'est pas lui qui se l'est créé. Il a répondu, mais c'est Dieu qui a l'initiative. On peut tenter de poser la question par la négative. Comment aurait été l'Église sans Paul? Ou sans saint Benoît, ou sans saint Thomas d'Aquin, sans saint François Xavier, sans un saint Jean 23. La réponse, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est une mauvaise question. Ce n'est pas par des hypothèses négatives qu'on accueille le positif. C'est comme si on demandait, et si Marie n'avait pas dit oui? Question un peu oiseuse, elle a dit oui. Et c'est ça qu'il faut accueillir et mesurer. Il faut partir de ce que Dieu a manifestement voulu et fait, et d'abord du fruit de sa grâce en Paul. Cette grâce à laquelle l'apôtre s'est montré suffisamment docile et accueillant. C'est quand même saint Paul de Tarse. La place singulière de Paul, c'est d'avoir été choisi à un moment clé, une étape charnière, au moment où l'on passe du premier au Nouveau Testament, et au moment où le christianisme va s'ouvrir à l'universel, et d'avoir pu non seulement proclamer le Christ, mais encore être le premier à mettre par écrit des éléments centraux d'une théologie explicite du salut, advenu dans le Christ. Paul est le premier théologien en ce sens. Les évangélistes le sont bien sûr à leur manière, mais dans la formalité plus construite, plus réflexive, Paul est le premier à le faire. La grandeur de Dieu, c'est d'avoir choisi un homme qui devrait d'abord en lui-même faire le passage dont il serait un messager de soi auprès des autres. On peut parler de la miséricorde de Dieu et son salut promis à tous, parce qu'il en a été le premier bénéficiaire. Le passage à l'Alliance Nouvelle est l'ouverture au-delà du judaïsme, mais comme de l'intérieur du judaïsme mené à sa perfection en Christ. Paul ne renie pas son judaïsme, il voit en quoi il est exaucé, avec H et sans H, par le Christ. Il suffit de voir la force avec laquelle c'est à partir de l'écriture que Paul argumente. L'écriture qui s'éclaire décisivement pour lui et pour nous dans le Christ. Alors pour évangéliser les nations, Dieu s'est choisi à ce moment-là, non pas un pagano-chrétien, mais un judéo-chrétien capable d'interpeller aussi ses frères juifs. Et pas n'importe lequel, un passionné, un génie intellectuel et spirituel aussi, mais dont la sainteté a mis toutes les dispositions natives et d'éducation au service du Christ, dès que le Seigneur Jésus devint le nouveau pôle de sa vie. Dans le choix de Paul par Dieu, il y a une convenance admirable. Ce n'est pas une nécessité qui s'impose, mais comme une convenance admirable de la part de la Providence. En choisissant Paul, ses dispositions naturelles, son chemin spirituel, la mission qui lui est confiée, tout ça se trouve unifié dans son appel. On peut mesurer cette convenance entre le parcours de Paul et sa mission spécifique, par exemple, sur le point d'articulation entre le jadis, autrefois, pécheur, suivant la loi de Moïse, et le maintenant, en ces temps qui sont les derniers, du salut du Christ. Ce passage, cette conversion, du jadis au maintenant, s'applique aussi bien à l'itinéraire personnel de Paul, autour de son chemin de Damas, c'est là la charnière de basculement, aussi au parcours dans lequel il conforte ses destinataires, vous qui autrefois étiez païens, idolâtres, etc., maintenant, les païens et les juifs. Et aussi, ce basculement s'applique à toute l'histoire du salut entre l'avant du Christ et son désormais, depuis. Mais l'être sous l'ancienne alliance et l'être sous la nouvelle, l'être sous le péché et l'être justifié par la grâce, bien sûr, il se différencie dans la succession du temps chronologique, historique, mais il désigne aussi des niveaux, on pourrait presque dire des statuts ontologiques de la conscience morale et spirituelle face à Dieu. Il demeure toujours en nous quelque chose de l'homme ancien, et parfois des étroitesses du Premier Testament, c'est beauté aussi. C'est pourquoi, alors même que nous sommes dans le temps de la Nouvelle Alliance, nous aussi, nous avons encore à acquiescer sans cesse à neuf à ce passage du jadis au maintenant, de l'homme ancien à l'homme nouveau, de l'homme sous la loi du péché et de l'esclavage à l'homme sous la loi du Christ et la liberté de l'esprit. Le Christ nous a donné une fois pour toutes la possibilité d'opérer ce passage, mais il nous faut, dans l'exercice quotidien de notre liberté chrétienne, y adhérer par une conversion sans cesse approfondie. C'est pourquoi on lit encore l'Ancien Testament dans nos liturgies. Nous devons sans cesse le revisiter pour en faire surgir la nouveauté à la lumière du Christ proclamé dans l'Évangile. Il faut comprendre à quel niveau de profondeur se joue le retournement vécu par Paul. Même si nous-mêmes sommes devenus chrétiens depuis notre enfance, même si nous n'avons pas le parcours d'un converti, même si nous ne venons pas directement du peuple juif, bien sûr, nous avons à accueillir dans une foi toujours plus vive ce passage pascal, ce que signifie le maintenant du salut dans nos vies. Et on voit que Luther, entre autres dans ce commentaire de la lettre aux Galates, expérimente radicalement ce passage de la loi à l'être sous la grâce du Christ. Bon, il l'exprime un peu dramatiquement en nous voyant complètement enfermés et en accordant, je dirais, le rôle unique à la grâce, sans que nous y participions beaucoup, mais en tout cas, il a expérimenté vivement dans sa spiritualité ce passage de l'homme ancien à l'homme nouveau. Paul, non seulement a par la grâce une place singulière, mais, et c'est là un second point, il en a une conscience vive, avec une lucidité étonnante pour un homme qui a le nez sur les événements, quand même. À entendre ce qu'il dit de la connaissance qu'il a du mystère de Dieu. C'est un beau passage dans le début de la lettre, le deuxième chapitre de la lettre aux Éphésiens. Paul reconnaît que la connaissance du mystère lui était accordée, non seulement cette connaissance, mais une intelligence profonde de ce mystère, la mission de le propager aussi. Paul dit la connaissance qu'il a du mystère de Dieu, de sa mission, de son rôle dans le plan du salut, Alors, en entendant ces propos, soit on le déclare mégalomane, follement présomptueux, soit il faut reconnaître que cette lucidité qu'il a sur sa propre mission, sa propre place dans le dessein de Dieu, cette lucidité même fait partie de la révélation qui lui est faite. Jésus-Christ lui est révélé, et sa place au service de Jésus-Christ lui est révélée. Paul ne peut comprendre le dessein de Dieu avec une telle pénétration sans comprendre en même temps comment lui, Paul, est mis à son service. Ça, c'est la marque d'un don et d'une lucidité prophétique en quelque sorte. Je rappelle entre parenthèses une définition du génie, entre autres, comme capacité de voir les choses comme elles sont. Ça l'a dit tout simplement, mais c'est vrai que souvent les génies, dans leur ordre propre, hein, de leur discipline, ont cette capacité d'approcher davantage les choses comme elles sont. Un prophète a un don de clairvoyance sur la réalité, mais là, un prophète, du point de vue proprement spirituel, c'est pas simplement un génie mathématique ou que sais-je. Au prophète, il est donné par grâce, par une interprétation de l'esprit, d'entrer dans le regard de Dieu sur les événements, sur l'histoire, et dans son dessein, en mesurant la réalisation, les tenants, les aboutissants. Il est donné au prophète, par grâce, de voir dans quel sens va l'histoire du salut et ce que Dieu requiert des hommes pour qu'ils y adhèrent. Le prophète, ce n'est pas Madame Soleil, hein, dans une boule de cristal. Le prophète, c'est celui qui sent tellement l'intention de Dieu, qui sait lire où nous acheminent les événements présents et l'action de Dieu qui les travaille. Par exemple, Isaïe, il est donné au prophète d'interpréter en vérité ce qui se vit et sur quoi les autres sont aveugles, et de discerner pour ses frères et sœurs l'agir et la volonté de Dieu dans l'histoire. Et le vrai prophète se voit souvent révéler de surcroît sa propre place dans le dessein de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui lui donne une telle audace, une grande liberté intérieure face à ceux qui lui méconnaissent cette place. Le vrai prophète sent qu'il a à dire cela, et comment il est habilité par la place que Dieu lui a cédée à le dire. Et donc c'est une sorte d'assurance incroyable. Pour rappel, en acte 26, on se rappelle la façon dont Paul rapporte l'événement de Damas avec en arrière-fond les grandes vocations prophétiques de Jérémie et d'Isaïe, et la façon dont, du point de vue du passage de l'aveuglement à la lumière, Paul comprend son expérience de son chemin de Damas en analogie avec celle de son peuple et des autres qui marchait dans les ténèbres. Ou bien le passage de 1 Corinthiens 12, verset 28, c'est la fin de la comparaison ecclésiale du corps et des membres, et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement, dit Paul, des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Les trois titres peuvent s'appliquer à la même personne, dans le cas de Paul, mais il est notamment Éphésiens 3, 4, là, je vous donne les références dans mon petit livre, en développant le sujet, non seulement Paul peut se dire héros, apôtre et docteur, expression qu'on trouve dans les pastorales, mais bénéficiant au départ d'une illumination de nature prophétique et d'une illumination de sagesse. Paul est héros, apôtre, docteur, mais aussi prophète et sage. Et cette dimension prophétique et de sagesse apparaît dans Éphésiens 3, 4 spécial. Comme tout visionnaire, non pas devin, comme tout prophète authentique, Paul ressent et dénonce tout ce qui porte atteinte à la vérité de Dieu, toutes les formes d'idolâtrie. C'est pourquoi il participe aussi à la souffrance du prophète martyrisé. C'est là une dernière facette. Et non seulement prophète, ça, il va devenir martyr. Paul connaît la prison, finalement la décapitation, comme Jean-Baptiste. Décapitation, là, je m'avance un peu. Mais entre les deux, il y a eu la croix et la mort, résurrection du Christ, et Paul a bénéficié du baptême d'Esprit Saint annoncé par le Baptiste. Paul décapité, c'est selon la tradition. Ça, j'ai une remarque prudentielle. On peut rendre grâce à Dieu, deuxièmement, pour la vie de Paul. Non seulement pour sa place dans le plan divin, et la conscience qu'il en a reçue, ça c'était le premier point, deuxième grand point pour sa place dans le, pour sa vie. De l'aveu même de l'apôtre, elle est le fruit de la grâce. Ce que je le suis, dit Paul en la première aux Corinthiens, chapitre 15, ce que je suis, reprenons apôtre, je le suis par la grâce de Dieu. Chez Paul, la réflexion théologique et spirituelle se nourrit de l'activité pastorale et missionnaire. Pour preuve, le Vaïsien, entre doctrine et parénèse, dans ses lettres, les passages plus réflexifs, les passages d'exhortation, qui sont enrichis d'élan priant, observé dans de nombreuses lettres, et jusque dans les pastorales. Et l'alternance entre petits énoncés doctrinaux et exhortations, ou perspectives pastorales, est typique par exemple de la lettre à Tite. De sa vie, retenons ici non plus les étapes, mais seulement quelques attitudes spirituelles. Les étapes, ça c'était dans le topo, l'introduction générale, les dates, la chronologie. Maintenant, prenons-le au niveau des attitudes spirituelles qui peuvent nous inspirer nous-mêmes. Primo, le désir de servir dans l'action de grâce pour les bienfaits reçus. Plus profond qu'une éthique du devoir, on laisse voir une éthique et une spiritualité de la gratitude, de la reconnaissance, de la participation à l'amour du Christ. Paul mesure les grâces extraordinaires dont il a bénéficié. Il sait qu'elles ne sont pas pour lui seul, mais pour l'annonce de l'Évangile. Un psaume dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Et le premier bien expérimenté, c'est la miséricorde de Dieu à son égard. Je rappelle ici la formule relue tantôt. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Sa mission sera de partager cette révélation et cette expérience. C'est un peu l'esprit missionnaire dans la ligne de la contemplation ad amorem. Contempler pour recevoir l'amour, contempler l'amour du Christ pour recevoir un amour qui y réponde. C'est ça l'axe éthique chez Paul. Agir non pas par devoir mais par réponse d'amour à l'amour reçu. Deuxièmement, la docilité à ce que dit l'esprit. Paul accepte souvent de voir ses projets modifiés par les circonstances. Il avait projeté de se rendre là, et puis ça ne va pas, le temps ne sont pas venus. Bien. Il ne reçoit pas les imprévus et les contrariétés comme entravant ses élans, comme nous. Souvent, nous disons, oh, flûte, j'avais projeté ça, et ça ne marche pas. Et puis, Paul, lui, c'est là sa sainteté, il discerne, mais qu'est-ce que Dieu veut à travers ce changement, cet imprévu? Il le reçoit comme des indications de la providence ou des épreuves qui l'unissent à la croix du Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il parle de l'abaissement du Christ en termes d'obéissance. Dans la lettre aux Philippiens, obéissance, la foi. Le souci, troisièmement, dont Paul est animé d'une éthique de la gratitude, de la reconnaissance, d'un souci de rester docile à l'esprit, troisièmement, d'un souci de se faire tout à tous. La capacité de varier la tonalité entre ses lettres ou d'un passage à l'autre d'une lettre selon la situation, les dispositions présumées des destinataires, avec comme critère ce que requiert la vraie charité et ce que chacun peut porter à tel ou tel stade. C'est comme ça qu'on voit un Paul tantôt tendre, patient, prompt à rendre grâce, à encourager. Tantôt, dans des circonstances différentes, ferme, vigilant, voire sévère, combatif, sans concession. Chez cet Ignace, on remarque quelque chose de ça. Lorsque la vérité même de Dieu, l'œuvre de Dieu est en jeu, là, il est intraitable. Il s'agit de rendre justice à Dieu. Même si Paul avait par tempérament des côtés âpres, on sent chez lui une grande charité, mais qui n'est pas naïve. C'est en connaissance de cause qu'il se fait tout à tous. Quatrième trait, la franchise et l'amour de la vérité. Paul ne peut ni ne veut cacher ses sentiments ni ses convictions. Ça ne procède pas seulement d'un naturel spontané, extraverti, mais d'un haut sens de ses responsabilités par rapport au ministère reçu. On ne falsifie pas la vérité. Il est prêt à ramasser des coups pour la défense de la vérité. Il le dit, il ne cherche pas à plaire, à négocier les paix factices. Il ne craint en rien le qu'en dira-t-on. Ses affirmations et ses requêtes sont fermes, mais sans fanatisme, car il sait par ailleurs hiérarchiser les degrés d'autorité de ses interventions. distinguer entre, d'une part, une prescription, une affirmation inaliénable pour la pureté de la foi, ou bien, ou la conduite, ou bien, d'autre part, un conseil, un avis sur ce qui lui semble meilleur, entre deux biens possibles, et en disant, je ne l'impose pas, mais connaissez mon avis sur le sujet. Donc la franchise et l'amour de la vérité. Cinquièmement, le souci de toutes les églises et leur unité dans la fidélité à la tradition apostolique. Comment Paul sert-il cette unité? Paul n'est pas une figure d'évêque résident, d'épiscope qui préside à la hiérarchie ecclésiale locale. Ce sera pour plus tard, Paul lui circule. Il n'est pas évêque établi dans une cité. Le souci-là de l'évêque résident, il est plutôt à l'horizon des pastorales. Paul, il est davantage le prototype du pasteur itinérant à ce moment-là, qui fait l'unité, non pas en résidant en un diocèse, mais en se montrant, enfin, utiliser un langage postérieur, mais qui fait l'unité en se montrant soucieux de la communion charité entre les églises. C'est pour ça qu'il écrit aux églises, il donne des nouvelles, il recircule, il repasse, il fait des collectes en sollicitant telle église pour telle autre. Donc il est soucieux de la communion charité entre les églises et de la justesse de la foi par sa prédication pérégrinante et par ses lettres. D'autre part, il agit dans la communion ecclésiale. Certes, et il ne le cache pas, il a son itinéraire propre. Il est conscient du raccourci de la connaissance du Christ qu'a représenté pour lui son chemin de Damas. Mais il sait s'entourer de collaborateurs. Il dialogue, parfois vivement, mais en tout cas sincèrement, avec les apôtres, et plusieurs fois, il rappelle qu'il transmet ce qu'il a lui-même reçu. Reçoit de la tradition. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable d'interpeller Pierre s'il sent qu'à ce moment-là, Pierre dévient. Sixième trait, la solidité de la foi, la fermeté de l'espérance, la charité pastorale, dans le renoncement de plus en plus consenti de celui qui donne sa vie comme prisonnier du Christ. Jésus avait dit à Pierre en Jean 21, « Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, mais quand tu seras âgé, un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas. » De plus en plus, Paul aussi doit entrer dans cet abandon confiant. Une personnalité de son envergure et de sa lucidité pouvait être tentée, à vue humaine, de s'accrocher dans la crainte d'un certain écroulement qui pourrait suivre son départ. Grand fondateur, toujours un risque. Hein? Paul est lucide. Il sait qu'après son départ, viendront ça et là, comme il dit, des loups féroces, mais il a confiance. « Je sais en qui j'ai mis mon espoir, je n'ai pas honte, je sais qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, le jour de la venue du Seigneur. » Et à Timothée, il dit « J'ai confiance que l'Esprit te guidera pour bien t'acquitter de ta mission. » Il s'est fait confiance à ses successeurs, en croyant que c'est l'Esprit, à raison, qui va les soutenir. On peut rendre grâce à Dieu donc ainsi pour la vie de Paul, pour ses attitudes de fond dans tout son apostolat, pour sa riche personnalité en ses diverses facettes. Je les ai rappelées brièvement à l'instant, un visage multiple, Paul est saint, héros au sens de proclamateur, apôtre, docteur, prophète, martyr, et encore sage. Cela est développé dans le chapitre 3 de mon petit livre, ce portrait plus spirituel. Donc on n'y reste pas plus longtemps ici. Enfin, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour l'enseignement de Paul. Comment résumer une doctrine si riche? On n'a vu qu'une partie des lettres, et encore plus rapidement bien sûr, mais on peut se rappeler au moins, pour mémoire, un accent majeur de chacune des lettres. Vous trouverez des précisions à nouveau dans le petit livre à suivre. Dans les premiers aux Thessaloniciens, la venue du jour du Seigneur. Et ça réapparaîtra dans les dernières lettres, les lettres pastorales. La première aux Corinthiens, la notion centrale de corps, et de la communion à laquelle ce corps est appelé. Il y a le corps du Fils incarné, le corps du croyant, le corps ecclésial, le corps eucharistique, le corps glorieux. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le ministère apostolique dans sa force et ses tribulations qui conforment l'apôtre au Christ. Philippiens, on a insisté sur la joie chrétienne et véritable, même dans les souffrances pour le Christ, une joie profonde. Et le mystère d'abaissement et élévation du Christ, allusion à l'hymne de Philippiens, chapitre 2. En Galates, l'évangile véritable. N'allez pas vous détourner de l'évangile tel que, premièrement, vous l'avez reçu, l'évangile véritable, et qui est source de liberté filiale dans l'esprit. N'allez pas retourner à l'esclavage de la loi, de la circoncision imposée à tous, etc. Romains, la justification par la foi, qui est œuvre de grâce, et la miséricorde de Dieu pour les Juifs et les païens. En Éphésiens et Colossiens, des captivités qu'on n'a pas vues, il y a une belle insistance sur le Christ, tête et plérôme, un terme qui désigne plénitude, tête et de l'Église et de l'univers. Et c'est en tant que tête de l'Église que le Christ attire à lui en même temps tout l'univers. Dans les pastorales, le souci adressé à Tite et Timothée, de garder, de bien transmettre le bon dépôt de la foi, et aussi une insistance sur les œuvres belles. C'est-à-dire il y a la justesse de la doctrine et la justesse des comportements à transmettre, à promouvoir. En hébreu, qui ne parle pas comme tel, vous savez qu'il y a un thème tout à fait singulier dans le Nouveau Testament, le Christ grand prêtre de l'Alliance nouvelle. On peut enfin esquisser quelques pistes à la lumière des quatre sens de l'Écriture, qui sont déjà, pour le juif, signifiés par le mot « pardesh », qui a donné « paradis », et dont les quatre consonnes, « P-R-D-S », c'est le début de quatre mots juifs qui désignent une des dimensions, une des quatre dimensions de l'Écriture. Mais en français, pour le faire bref, il y a ce qu'on appelle le sens littéral, puis le sens allégorique ou doctrinal, c'est ce que je peux croire, comprendre, le sens tropologique ou moral, qu'est-ce que je suis invité à faire, le sens anagogique ou mystique, qu'est-ce que je suis invité à espérer. Dans le Nouveau Testament, le sens littéral est encore plus immédiatement transparent de sa portée spirituelle, puisque le cœur de la Nouvelle Alliance est le Christ ressuscité, dont l'esprit filial nous rejoint. Alors je dis un petit mot de chacun de ces quatre sens chez Paul. Le sens littéral. D'abord, pour comprendre la lettre du texte paulinien extrêmement précise, il faut notamment se rendre attentif à l'usage qu'il fait de la disposition rhétorique ou des procédés de commentaires rabbiniques. On a vu, je vais vous donner quelques exemples. Mais retenons surtout ici ce que la lettre du texte engage comme rapport à l'histoire. Et souvent, pour l'Ancien Testament, être attentif au sens littéral, c'est bien mesurer la portée, le contexte historique, la portée historique des événements racontés. D'abord, Paul écrit dans des circonstances déterminées, et leur connaissance historique peut et doit éclairer notre compréhension de ses propos. À la différence d'un évangéliste, Paul ne relate guère les épisodes de la vie du Christ ou ses paroles. Il retient comme noyau historique la passion, résurrection du Christ pour réfléchir et contempler le sens. Il dégage déjà d'emblée à un niveau second la portée spirituelle de ces événements. Mais il a en tout cas un vif sens de l'histoire comme histoire sainte. Le sens de sa propre histoire d'abord, les rappels qu'il en fait, tous les passages de narration qu'on a vus, racontent ce qui s'est passé. Dans les sections d'argumentation, pour dégager les enjeux de ce qui s'est passé, et ce qu'on a appelé de la façon dont, saisissant le projet de Dieu sur lui et par là pour tout homme, Paul saisit le projet de Dieu tout court dans l'histoire. Donc, à partir de son histoire propre, il expérimente quelque chose de l'intention large de Dieu qui traverse toute l'histoire. Il a le sens de la jeune histoire des communautés qu'il a fondées. Lorsqu'il fait mémoire d'eux dans ses prières, lorsqu'il dit « Je vous rappelle, frère », il aide ses destinataires à faire mémoire de leur propre histoire, de ce qui s'y est déjà manifesté d'intervention divine, pour qu'ils en voient le sens et ils demeurent fidèles. Il a bien sûr le sens de toute l'histoire de son peuple en arrière-fond. référence à Adam, Abraham, Moïse, les événements du désert, pour la Torah Pentateuque, les figures prophétiques qui nourrissent la compréhension qu'il a du mystère du Christ, de sa propre vocation. Enfin, il a le sens de l'histoire du monde et de l'universel sous le regard et le salut de Dieu. Une grande amplitude de théologie d'histoire, si je puis dire, dans sa réflexion aux Romains, en 1 Corinthiens 15, qui part de l'homme créé à l'homme réalisé à l'eschaton, en passant par l'homme sauvé dans la résurrection, et en Éphésiens Colossiens. Donc un grand sens de l'histoire lié à la lettre. Deuxièmement, que met-il, deuxième sens, que m'est-il donné de croire ? Au sens littéral, il faut déjà conjoindre le sens allégorique, ce qui se livre en ces événements du mystère du Christ et de l'Église, ce qui est raconté d'autre, c'est ça le sens du mot allégorie, entre les lignes de l'histoire racontée, on peut lire en superposition quelque chose de plus profond, qui se donne à croire. Paul voit comment l'histoire est figurative en même temps que réalité assumée par Dieu. Il y a à l'œuvre une typologie. Toujours les figures historiques qu'il convoque s'éclairent pour Paul comme figure du Christ. Adam est figure de celui qui devait venir, Romain. Abraham est le type du croyant et sa descendance est d'abord le Christ en qui nous sommes héritiers de la promesse, Galatée Romain. La gloire sur le visage de Moïse est une annonce encore imparfaite de celle du Christ, image de Dieu, communiqué aux croyants, on a vu ce beau passage de 2 Corinthiens. La loi dont est chargé Moïse est en pédagogue, Romain. Elle indique le chemin de vie sans encore lui donner la grâce miséricordieuse qui a reçu des transgressions. Sarah, l'épouse légitime d'Abraham, devenue féconde d'Isaac, est la figure de la femme libre, symbole de la Jérusalem céleste. Le rocher source du désert était le Christ, comme dit Paul de manière contraire dans la première aux Corinthiens, et ce rocher était le Christ, le rocher du désert aussi. Donc c'est le mouvement de la typologie qui prend une figure de l'histoire sainte et comprend sa réalisation chrétienne. Dans le Christ, Paul embrasse et ressaisit l'histoire de l'humanité, l'unité dans l'unicité du dessein divin qui est sans repentance, nous dit-il. Cependant, ces figures n'en deviennent pas intemporelles, mais comme flottantes sur le fil chronologique. Paul a le sens des avant et des après, des jadis et des maintenant. Il ne télescope pas les repères chronologiques de l'histoire. Il argumente même à partir d'eux. Il souligne ainsi en quoi, avant même le don de la loi qui révèle le péché, celui-ci était à l'œuvre dans le monde. D'Adam à Moïse, le péché était à l'œuvre. Il dégage la portée d'une alliance abrahamique qui de promesse, qui intervient avant celle plus législative du Sinaï. Dans la propre vie d'Abraham, il distingue l'avant et l'après de sa circoncision. Cela, toujours pour éclairer par ses considérations les états vers le salut et la liberté nouvelle, spirituelle, qui nous adviennent dans le Christ. Donc, cette réalisation des figures respecte le cheminement de vie. L'analogie de la foi, que m'est-il donné de croire ? Eh bien, Paul a une vision qui unifie les composantes de la foi. Si le Christ, qui mène à sa perfection le dessein de salut de Dieu, est principe d'unité dans l'histoire et nos histoires, l'histoire du monde, l'histoire d'Israël, l'histoire des communautés, l'histoire de Paul, eh bien l'apôtre perçoit pareillement l'unité spirituelle et théologique des vérités de foi dont le Christ est l'objet central. C'est ce qui rend son propos parfois difficile dans sa densité. En soulignant un aspect du mystère révélé, Paul appréhende toujours en arrière-fond d'autres aspects qui lui sont connexes. Énonçant une vérité, en poussant l'expression à bout, il sent ce qui pourrait mal l'interpréter ou même la nier. D'où il complète par d'autres aspects. Il nuance, il précise, il enrichit pensée. Parmi les insistances récurrentes de la théologie paulinienne, on retiendra la centralité du mystère pascal, croix et résurrection, la dimension théologale, l'amour résumé de la loi, la foi qui appelle la justification, et l'invocation, l'invitation à l'espérance endurante, l'espérance quasi absente des évangiles. L'espérance est la vertu du temps de l'Église. Le substantif espérance, vous avez dit, n'apparaît pas dans les évangiles. Par contre, Quand il parle, c'est un ordre. Donc la dimension théologale et l'aspect trinitaire. Ce n'est pas étranger à ce qui précède. La Trinité est un mystère d'amour. L'amour est principe d'unité. C'est dans l'amour trinitaire que l'histoire du monde créé trouve dans le Christ, se trouve dans l'action sans cesse réunifiante de l'Esprit, réconcilié avec le Père, et que les hommes sont réconciliés entre eux. On a remarqué la marque trinitaire de bien des passages. Il ne faut pas verser dans l'anachronisme et projeter rétrospectivement sur la pensée paulinienne des développements conciliaires ultérieurs, mais dans son vocabulaire, tout est en place pour nourrir les développements ultérieurs, à partir de leurs sources néo-testamentaires variées. Paul saisit le mystère du Christ, de l'Église, de chaque croyant, dans l'amour trinitaire. Une formule frappante est celle de notre filiation dans le Christ, par l'Esprit qui nous donne de dire « Abba ». Qu'il s'agisse de réfléchir à la création, l'événement de Pâques ou la résurrection finale, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit sont inévitablement évoqués conjointement dans le développement doctrinaux de Paul. Troisième sens, le sens tropologique ou éthique. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, dit Hobbes. Il y a trois principes d'intégration de l'éthique, selon Paul. Chez Paul, l'éthique et la doctrine sont profondément liées, la foi et les mœurs. Le développement réflexif sert de point d'appui à les conseils pastoraux qu'il va donner. Parce que la morale est profondément christique, spirituelle et filiale, dès lors que la foi ancienne se trouve accomplie dans la loi du Christ, centrée sur l'amour dont il nous sert. C'est un des drames de notre époque de couper les normes de l'agir, de leur source spirituelle et du Dieu vivant en Christ ressuscité, ou bien de renvoyer les critères de discernement de l'agir à la sphère des convictions privées, sans référence à la communion qui ne peut être que dans le Christ livré pour abolir le mur de la haine. La saisie, l'appréhension et l'expression paulinienne de la morale chrétienne, même si elle demande dans les déterminations de ses applications un discernement qui actualise, eh bien, la saisie de cette morale n'en reste pas moins d'une vigueur non dépassée, parce que enracinée dans une vision et une vie de foi. Autre principe d'intégration, intégration donc entre l'éthique et la doctrine, la foi, autre principe d'intégration, Paul intègre la morale domestique, et ce qui régit les rapports entre les membres de la communauté comme maison-église. Il y a comme des analogies entre la morale au niveau familial, de l'église comme cellule familiale, sous le regard du Christ, qui en est la tête, et d'autre part, le comportement vis-à-vis de ceux du dehors. Ce qui est demandé à ceux du dedans doit édifier le témoignage vis-à-vis édifiés par leur témoignage ceux du dehors. La réalité naturelle de la famille, par création et restauration dans le Christ, Paul y contemple les rapports d'amour, charité et d'ordonnancement dans le mystère nuptial du Christ et de l'Église. L'Église domestique reste ainsi comme une source et un paradigme inaliénable de l'éthique sociale. On le voit bien dans le pastoral. Une éthique des repères, enfin, qui ne dispense pas du discernement. Vouloir appliquer la même détermination de comportement, quelle que soit la situation, peut parfois non pas favoriser l'unification de la conscience morale, mais l'éclater sous une apparente cohérence de surface. Une même norme, quelle que soit la situation et circonstances. Non. Selon les circonstances, manger des viandes sacrifiées aux idoles pourra répondre à la charité, édifier le frère suffisamment libre et le conforter dans cette liberté, ou au contraire, laisser la charité, scandaliser le frère, être un obstacle et un progrès à son progrès dans la foi. Il faudra pouvoir discerner ce qui convient. Timothée pourra être circoncis, alors qu'il faudra refuser de le concéder pour Tite, parce que le contexte est différent. Enfin, quatrième sens de l'Écriture, le sens anagogique ou mystique et missionnaire. Percevoir dans le Christ l'enracinement premier de l'histoire, son sens ultime et son achèvement dernier, c'est accueillir l'horizon le plus large dans lequel se déploie le dessein de Dieu pour l'homme, de la création à l'eschaton, en passant par l'événement pascal. Le sens de l'Écriture qui ouvre à la perspective première et finale et sous-tend l'espérance chrétienne, c'est ce sens dit analogique, qui ouvre l'horizon jusqu'à la venue du Christ, le terme. Si Paul a l'air de parler au début de la parousie comme devant advenir dès sa génération, il n'est pas sûr que ce soit par une sorte de myopie, de naïveté, parce qu'il ne soupçonnerait pas la profondeur du champ de l'histoire qui viendrait après le Christ. Et de plus en plus, d'ailleurs, on sent qu'il a en vue les générations futures. Plus profondément, Paul sent la connivence qu'il y a entre l'histoire de chaque génération croyante, l'histoire d'une vie d'homme, à commencer par la sienne propre, et l'histoire du monde. Sa venue au monde, dès le sein de sa mère, son immersion baptismale dans la mort-résurrection du Christ, et le terme de son parcours terrestre, qu'il sent imminent, Paul les envisage à la lumière de tout, du tout de l'histoire, qui va de la vie créée à la vie éternelle. Plus on avance dans la vie, plus en méditant les perspectives eschatologiques de la liturgie, notamment en fin d'année liturgique et dans le temps de l'Avent, eh bien on médite aussi en cette lumière le sens de sa propre destinée personnelle inscrite en cette histoire. Où va l'histoire du monde et à l'intérieur, où va mon histoire personnelle? Et les deux doivent s'éclairer. Paul vit déjà tourner vers le Christ et sa venue glorieuse. Il insiste sur ce jour du Seigneur, ça on l'a vu dans ses premières lettres et aussi dans les dernières. C'est là la profondeur de son regard mystique. Et l'élan missionnaire trouve un puissant ressort dans le sens anagogique. Parce que c'est polarisé par le terme qui lui est promis que l'histoire ecclésiale et humaine requiert que le Christ soit annoncé en tout temps, en tout lieu, pour l'accomplissement de la destinée d'Israël et pour conduire les nations à l'obéissance de la foi, jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. C'est en fonction du terme qui nous est promis que nous devons, par l'annonce missionnaire, contribuer à acheminer l'humanité vers son terme. C'est aussi une des sources de la dimension mystique de la perception et des écrits pauliniens. Une touche hymnique, priante, proprement contemplative et non plus seulement réflexive ou éthique. Par exemple, cette merveilleuse expression de 1 Corinthiens, « Ce jour-là, je connaîtrai comme je suis connu. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, mais alors ce sera face à face. » Ça, c'est quand même mystique. Hein? Telle est la dimension la plus originante, peut-être, de l'âme et de l'écriture paulinienne, celle qui transparaît sur l'image de Rembrandt, vous souvenez, où Paul, plus encore qu'il ne réfléchit, contemple et prie. Voilà, merci de votre attention. J'ai été un petit peu long, mais je voulais boucler.